j'ai même pas le temps de me poser. C'est quand même extraordinaire, c'est samedi matin. En plus, il y a plein de monde dans le studio. C'est sympa aujourd'hui, Enrique. Qu'est-ce qu'on est bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors, je vais prendre mon accent québécois parce que je suis passé quelques jours au Québec pendant ce mois de février. Et franchement, je me moque pas du tout quand je fais cet accent québécois parce que je vous remercie, amis québécois, par votre sympathie, votre convivialité. C'était un séjour formidable. J'en ai profité pour visiter le Centre de sciences de Montréal, qui est un endroit quand même assez extraordinaire. Ça ressemble un peu à la Cité des sciences de la Villette à Paris, mais en mieux. C'est-à-dire qu'ils osent parler de sujets, d'énergie, il y a eu pas mal de choses sur la mécanique. C'est-à-dire des sujets qui sont un peu difficiles à aborder, notamment pour un public jeune, parce que le Centre de sciences de Montréal vise un public vraiment jeune au départ. Et ils arrivent par des manipulations, par des vidéos, par des choses vraiment très interactives, d'intéresser ces jeunes à ces sujets-là, parce que ces sujets les concernent. C'est quoi l'énergie de demain? Ce sont quoi les transports de demain? Eh bien, ils arrivent à aborder... Alors, je suis toujours très critique avec la Cité des sciences de Paris. Moi, c'est pour ça que je suis peut-être pas objectif, on va dire, mais en tout cas, j'étais agréablement surpris par ce que faisaient les Québécois justement en termes de vulgarisation scientifique. C'est Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h. Nous sommes en direct aujourd'hui. On va parler de l'actualité scientifique dans l'espace. On va bien sûr revenir sur Sophie Adenau qui est partie, notre petite Française, là-bas dans la Station Spatiale Internationale. J'espère qu'elle nous écoute et j'ai essayé de décrocher une interview de Sophie. Ça va être mon objectif pendant les 6 mois où elle sera là-haut. Je vais essayer de la contacter pour qu'on puisse la voir sur l'antenne. On va parler d'un phénomène vraiment rare dans l'espace qu'il ne faut pas manquer ce week-end. On va parler d'Epstein parce que tout le monde en parle d'Epstein. Et bien nous aussi, parce qu'il y a un article assez intéressant qui montre pourquoi il y a pas mal de scientifiques qui sont présents dans ces fameux dossiers. On va parler du procès de Total Energy et on va également parler de ces 15 millions de Français qui se sont fait voler leurs données médicales. Alors pourquoi? Quel est ce risque? On a l'impression que ça devient une habitude. Donc on va parler de ça dans cette émission Biotine. On fera aussi un point sur l'actualité qui n'est pas du tout scientifique mais quand même assez dramatique. Ce qui est en train de se passer en ce moment en Iran avec des frappes américaines et israéliennes. C'est l'actualité pure. Je suis en train de lire sur France Info ce qui est en train de se passer et c'est guère réjouissant. Donc on va essayer de suivre ça pendant cette heure d'émission. Je vais prendre mon souffle et pour cela, eh bien, on passe le générique. À tout de suite. Et on salue Enrique et Fatima qui étaient dans le studio.
Vulgarisation scientifique de graphite.
Ah oui, c'est vraiment une actualité très très lourde hein, qu'on essaiera de suivre parce que ce qui est en train de se passer en ce moment avec ces frappes en Iran et dans tout le Moyen-Orient, il y a également des frappes un petit peu partout, des vols qui sont maintenant totalement suspendus par Air France. Enfin, c'est une situation qui n'est pas du tout optimiste, on va dire. On va essayer de suivre ça, bien sûr, si j'ai des informations pendant cette petite heure, même si c'est pas de l'actualité purement scientifique. On est quand même assez réactif au sein de cette radio graphite. Je suis très heureux de vous retrouver, je m'appelle Jean-Noël, je ne suis même pas présenté, même si Enrique a eu la gentillesse de mentionner mon prénom plusieurs fois dans son émission. C'est vrai que je m'installe à côté de lui et je suis en train de raturer, de reprendre, de réécrire les articles que l'on trouve dans la presse scientifique française. Il y a pas mal de sites qui sont quand même assez bien faits. Moi, j'aime beaucoup Futura Science parce que leur approche est assez intéressante. Ils parlent de tous les sujets et c'est vraiment vulgarisé. Donc ça nous permet à chacun d'entre nous d'avoir une certaine connaissance de ce qui se passe au niveau de la recherche française et internationale. Et puis aussi des revues de vulgarisation scientifique que je vous incite à consulter. Sciences et vie, Sciences et avenir, c'est vraiment bien fait. Il y a des maquettes qui sont vraiment très agréables et des sujets de fond qui sont vraiment intéressants. Et donc aussi, j'en parle pas assez dans cette émission, mais moi je vous incite à visiter des musées scientifiques. Alors il y en a quand même pas mal en France, il y en a dans toutes les régions, donc vous n'avez pas d'excuses, j'allais dire. Mais effectivement, cette visite du Centre des sciences de Montréal m'a vraiment... plus parce que je trouvais que leur approche était vraiment intéressante et vraiment... Alors, ils prennent le parti quand même de faire quelque chose vraiment axé pour le public jeune, très jeune, et donc des adultes peuvent être, peuvent se sentir un peu dépourvus, quoique non, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance et une scénographie qui est très accueillante, très, très agréable, très, très québécoise en fait quelque part, et les contenus sont vraiment à la portée de tout le monde, il y a des exercices de manipulation, d'interactivité qui sont très bien faits. Donc n'hésitez pas aussi à visiter des musées scientifiques, parce que la science, elle peut être abordée par tous les supports. Alors effectivement, dans cette émission Biotine qui a démarré en 2008 sur cette antenne de Graphite, le support de la radio est quand même pas le meilleur des supports pour parler de science, on est bien d'accord. J'essaye de faire comme je peux avec les moyens que j'ai pour essayer de vous parler de science, mais par le média radio, effectivement, c'est difficile de ne pas avoir d'illustrations, de schémas, d'animations, de vidéos ou autres. Donc c'est uniquement ma voix qu'on écoute, et j'essaye d'être le plus agréable possible, mais enfin c'est pas toujours facile, on va dire, surtout pour certains sujets qui sont des sujets des fois abstraits, un peu ardus. Et par contre, les musées, eux, peuvent aborder ces sujets-là sous différentes formes, avec différents supports, et justement ça permet, voilà, de pouvoir aborder toutes sortes de sujets. On va commencer avec l'éphéméride de ce 28 février en 1935. Le chimiste Wallace Carothers, il est employé chez Dupont de Nemours, une entreprise de chimie qui est située à Wilmington dans le Delaware. Et bien en 1935, il invente une matière plastique qui est utilisée comme une fibre textile. En fait, cette fibre, il va l'appeler nylon, et c'est donc en 1935 que le nylon est donc créé. Sa commercialisation sera faite à partir de 1938. Mais voilà, on a une création, il y a donc à peu près 90-91 ans, du nylon. Plus proche de nous, 2005, Steve Fossett, il décolle de Salina pour un tour du monde en solitaire et sans ravitaillement. Il espère boucler le tour de la planète en moins de 80 heures. Le tour de la planète, c'est quand même plus de 42 000 km. C'est quand même une distance assez longue. Il a pour cela un appareil ultra léger qui est le Virgin Atlantic Global Flyer. Il atterrit le 3 mars, et en 67 heures, il fait le tour. Donc, il a bien sûr battu son objectif de 80. 67 heures et une minute de vol pour faire 42 km 450, tout seul et sans ravitaillement. C'était il y a 21 ans, Steve Fossett. Naissance le 28 février 1683. Oh là là, on part dans le 17e siècle, et c'est la naissance de René-Antoine Ferchaud de Réaumur. On l'appelle directement Réaumur. Alors Réaumur, ça nous dit quelque chose, parce qu'il a la chance d'avoir une station de métro et un boulevard à Paris. Donc du coup, son nom est resté encore un petit peu dans l'inconscient de chacun d'entre nous. Réaumur, ça nous dit quelque chose. Mais qui est-il, ce Réaumur ? C'était un physicien et un naturaliste français. Ce qui est assez intéressant à l'époque, c'est quand on touchait à la science, on touchait un petit peu à tout au niveau de la science. Lui, dès le début de ses recherches, eh bien, il se passionne pour les invertébrés, et notamment les insectes. Et en 1710, il écrit un mémoire qui s'intitule « L'examen de la soie des araignées ». Il s'intéresse également à la vie des fourmis. Et Réaumur décrit également avec précision l'action singulière de la torpille et l'organe qu'elle met en jeu pour exercer des effets électriques, cette fameuse torpille électrique qui lance des décharges. Donc il travaille sur tout cela. On est quand même au début du XVIIIe siècle, dans les années 1710-1715. François Réaumur, et c'était l'occasion un petit peu de parler de lui parce qu'il est né un 28 février. Lui est mort un 28 février 1936, c'est Charles Nicolle, médecin microbiologiste français. Il reçoit le prix Nobel de médecine en 1928 pour ses travaux sur le typhus. Il est également membre de l'Académie des sciences. Donc Charles Nicolle, lui, est décédé le 28 février, et donc il a eu, voilà, le prix Nobel de médecine pour le découverte du typhus. C'est pas nécessairement un nom qui est passé à la postérité, mais c'est un peu l'occasion, grâce à cet éphéméride, de pouvoir évoquer tous ces scientifiques de renom, bien évidemment. Alors, on va partir dans l'espace. Il est 12h12 sur l'antenne de Graphite. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bon appétit si vous êtes à table. Et puis, pour la rediffusion le mardi matin à 10h, je vais peut-être pas vous dire bon déjeuner, mais en tout cas, peut-être un bon petit déjeuner. Peut-être que vous êtes levé tard ce mardi matin, on ne sait pas. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre totalement. Et je vous emmène dans l'espace parce que pendant que j'étais donc au Québec, eh bien, bien Sophie Adenau, elle, eh bien, c'est fait. Elle a rejoint la Station Spatiale Internationale pour une mission d'une durée d'environ 9 mois quand même, 9 mois. Elle et 3 autres membres de l'équipage ont rejoint donc le complexe orbital à bord d'une capsule Dragon de SpaceX qui s'est donc amarrée à la Station Spatiale. C'était le 14 février pour la Saint-Valentin. Elle a donc été dans l'espace. Pour rappel, ils avaient décollé environ 34 heures plus tôt. Il faut quand même un trajet de 34 heures. C'est quand même assez long finalement. Elle est partie depuis le Centre Spatial Kennedy de la NASA en Floride. À leur arrivée, l'équipage a été accueilli par l'astronaute de la NASA, Christopher Williams, ainsi que par les cosmonautes de l'agence spatiale russe, pardon, Sergei Koudcherkov et Sergei Mikhaïev. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'espace, on n'a plus de géopolitique un peu intense. Les Américains et les Russes sont ensemble au même endroit. Ils sont présents dans la station depuis leur arrivée à bord d'un Soyouz, c'était en novembre 2025. Il n'y a pas longtemps qu'ils sont arrivés, mais enfin quand même, si ça fait quand même 4 mois, c'est peut-être long 4 mois. On ne se rend pas compte, nous, on ne se rend pas compte d'être enfermé dans une station spatiale plusieurs mois, ce que ça peut faire. En tout cas, au cours d'une brève cérémonie, Sophie Adenau et Jack Hathaway, qui est donc un autre membre de la mission, ils ont reçu leurs ailes d'astronaute des mains du commandant de la station, et le commandant de la station, c'est le russe Sergei Koudcherkov. Et donc avec Sophie à bord de la station, eh bien la mission Epsilon a officiellement débuté. Elle est prévue pour durer donc 9 mois. Cette mission est en passe de devenir la plus longue expédition spatiale de l'Agence spatiale européenne à ce jour. Et donc pendant son séjour à bord de la station spatiale internationale, Sophie Adenau va servir en tant que spécialiste d'équipage pour le laboratoire européen Columbus et également pour un module japonais qui s'appelle Kibo. Et elle va mener jusqu'à 36 expériences scientifiques pour le compte de l'Europe, dont 7 projets développés spécialement par l'Agence spatiale française, le CNES, le Centre national d'études spatiales. Et donc ces recherches vont couvrir un large éventail de domaines. Ça va aller de la physiologie humaine à la recherche climatique en passant par des démonstrations technologiques. L'objectif, c'est de contribuer à l'amélioration de la vie sur Terre tout en soutenant les futures missions d'exploration spatiale. C'est ce qu'elle va faire, Sophie Adenau. Alors, ce qui est assez nouveau en ce qui concerne la mission de Sophie Adenau, c'est que pour la première fois, la NASA autorise les astronautes à emporter un smartphone avec eux. C'est la première fois que ça se fait. Et puis il y a aussi d'autres missions dont la mission Crew et la mission Artemis 2 à destination de la Lune qui sont prévues dans quelques jours. Et bien ce seront donc les premières missions à bénéficier de la nouvelle politique de l'agence spatiale américaine. La raison de ce changement, le fait que l'on peut maintenant emporter des smartphones, c'est la nomination récente de l'astronaute Jared Isaacman à la tête de la NASA par Donald Trump. On en avait parlé il y a quelques mois de cette nomination, et ça il a notamment indiqué que le fait justement d'emporter ses smartphones, ça permet à l'équipage de prendre plus de clichés et de vidéos à partager avec leurs proches et le monde entier, bien évidemment. Alors, Station Spatiale Internationale, elle est bien sûr équipée de caméras. Les caméras, elles avaient été utilisées notamment par Thomas Pesquet. On se souvient de tous ces clichés qu'il avait diffusés sur les réseaux sociaux. Mais il s'agit de matériel professionnel assez encombrant. Les smartphones, ils sont généralement, bien sûr, à portée de main. Ils permettent plus facilement de capturer des petits moments un peu à l'improviste. On est sur quelque chose de plus léger, de plus spontané. Il est important de noter que les astronautes utilisent déjà des tablettes pour communiquer avec la Terre. Et ce n'est pas la première fois que des smartphones sont envoyés dans l'espace. Il y en a déjà eu par le passé, mais on était sur des missions, on va dire, civiles qui étaient menées notamment par SpaceX. Là, on est sur des missions, j'allais dire militaires, en tout cas, on est sur des missions encadrées par la NASA, et donc c'est la première fois que ça se fait. En fait, la NASA, elle avait été réfractaire au smartphone auparavant parce que tout matériel emporté doit passer par un processus de validation qui est assez rigoureux, qui est assez long, et en fait, ça aurait un petit peu fait que les astronautes seraient partis avec des modèles de smartphone un peu obsolètes, tellement c'est long. Et donc, il y a des nouveaux processus qui ont été mis en place, des processus accélérés, ce qui va permettre aux astronautes de disposer des dernières technologies, et notamment de pouvoir filmer en 4K. Donc effectivement, les vidéos sont quand même beaucoup plus intéressantes. Et pour la mission Artemis 2, qui est une mission qui est prévue donc dans quelques jours, ce changement pourrait être crucial parce qu'en dehors des smartphones, eh bien, ils seront limités en fait par un réflexe numérique Nikon et des GoPro. Et ce matériel a au moins 10 ans, donc effectivement, le fait d'avoir maintenant des smartphones un petit peu plus récents, ça va permettre d'avoir des qualités d'image plus intéressantes, ce qui permettra aussi d'avoir un petit peu plus d'informations, et puis d'avoir, des choses un petit peu plus spontanées, c'est ça qui est aussi intéressant. Et enfin, comme on est sur Sophie Hannot, je ne résiste pas à évoquer cet article du Huffington Post, qui nous parle un petit peu de ce qui a étonné Sophie Hannot dans la Station Spatiale Internationale. Et ce qui est assez intéressant, c'est que elle compte bien sûr les jours autrement, c'est-à-dire que le fait d'avoir 12 jours en orbite, ça signifie 189 tours de Terre. C'est quand même assez intéressant, parce qu'on compte pas la même... Si, c'est la même durée, mais ce n'est pas la même échelle de temps, entre guillemets, parce que, effectivement, nous, on se base sur la rotation de la Terre et dans la Station Spatiale Internationale, ce n'est pas la même chose. En tout cas, Sophie Hannot a envoyé un message depuis la Station Spatiale Internationale. Je cite « J'envoie mes pensées les plus chaleureuses à toutes les personnes touchées par les événements récents et félicitations à tous les athlètes olympiques. » Donc depuis l'espace, l'astronaute française garde bien sûr un œil sur la planète, un œil sur l'actualité et sur aussi les récentes inondations. Son message était lié aux inondations qui ont touché la France la semaine dernière. Ce qui a le plus marqué Sophie Hannot depuis son arrivée à bord de la Station Spatiale Internationale, c'est pas forcément ce que l'on imagine. Lors de sa première prise de parole dans l'espace, elle apparaît d'abord tête en bas. Vous avez peut-être vu cette vidéo, les pieds en l'air, un peu comme une chauve-souris, puis elle se remet un peu dans le bon sens, entre guillemets, pour répondre aux questions. Et donc, 14 jours après son décollage, eh bien, la première française dans l'espace depuis Claudie Aignoret, elle assure être, je cite, comme un poisson dans l'eau. Et justement, la première surprise a été physique pour elle. Elle dit, j'ai eu la belle surprise de n'avoir aucun des symptômes qu'on peut craindre quand on arrive dans l'espace, un peu comme le mal des transports. Dès la première seconde, je me suis senti comme un poisson dans l'eau. En fait, elle se préparait un peu à être désorientée, voire un peu nauséeuse, et bien rien de tout cela. L'autre choc, plus attendu mais tout aussi puissant, a eu lieu dans la coupole. La coupole, c'est le module d'observation. Ils ont des hublots assez larges. Et elle dit « C'est encore mieux que ce que j'ai pu espérer. La vue de la Terre est absolument magnifique. » Elle parle d'un moment un peu euphorique, comme si toutes les cellules de mon corps avaient ressenti cette joie. C'est vrai que ça doit faire quand même bizarre et très impressionnant de voir la Terre à partir d'un hublot. On ne se rend pas compte. Et elle dit, de là-haut, elle dit « La Terre est si belle, on se sent unité dans toute l'humanité. » Et puis, il y a les détails très concrets de la vie en orbite qu'elle évoque. La station, vue depuis les images de la NASA, elle semble parfaitement ordonnée. Eh bien, en réalité, elle reconnaît qu'on a l'impression que c'est un bazar vu de loin. Parce que lors de cette vidéo, on voit des câbles, des sacs, des équipements qui flottent dans tous les sens, mais elle précise que chaque objet est méticuleusement inventorié. Tout est à sa place, même s'il n'y a pas nécessairement une notion de rangement de haut et de bas, mais en tout cas, tout à sa place. Autre surprise plus inattendue, ce sont les odeurs. On l'avait prévenu que l'atmosphère pouvait être désagréable. Moi, je dirais que c'est une odeur de carlingue métallique, c'est ce qu'elle explique. C'est pas vraiment mauvais, c'est pas vraiment neutre, elle dit que c'est différent. Et puis son quotidien, lui, il est totalement millimétré. Un réveil à 5h30 du matin, au moins 2h30 de sport pour préserver les muscles et les os. Et puis un peu de science, un peu de maintenance, un peu de logistique. Elle avoue ne pas avoir encore totalement pris ses marques. Elle dit qu'il a fallu une semaine pour remettre la main sur son shampoing, effectivement. Donc, retour prévu en octobre prochain, plus de 200 expériences l'attendent et en mars, si tout se passe comme prévu, eh bien ce sera sa première sortie extra-véhiculaire. Voilà, c'était le ressenti de Sophie Hannot dans la Station Spatiale Internationale, un article du Huffington Post rédigé par Anne Fleur. Alors pour ceux qui sont des fidèles de cette émission, ils se souviennent très bien d'Anne Fleur qui a participé à Biotine au tout début d'ailleurs, et qui tenait aussi une chronique pendant très longtemps dans cette émission. Et bien, elle a avancé, Anne Fleur. Maintenant, elle écrit dans le Huffington Post. Et c'est un plaisir d'évoquer son prénom et de lire aussi ses articles en direct sur l'antenne de Graphite. Voilà ce que l'on pouvait dire. Hein. C'était une grande parenthèse. Et 12h23, on va écouter un peu de musique quand même, parce que j'ai beaucoup parlé, mais je trouvais quand même assez intéressant de faire un vrai point sur Sophie Anneaux dans l'espace. On écoute un peu de musique sur l'antenne de Graphite. Et on se retrouve, on va continuer à consulter la revue de presse de l'actualité scientifique. À tout de suite sur l'antenne de Graphite. Love My Head Off, c'était Art School Girlfriend sur l'antenne de Graphite. J'ai appuyé sur le mauvais bouton.
Jean-Noël Moreau.
Ah bah oui, j'ai fait que des bêtises. Oh, je sais pas ce qui se passe. Alors, on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. On était dans l'espace, on va y rester parce qu'on avait parlé courant janvier, hein, je ne sais plus à quel moment en janvier dans cette émission, de ce rapatriement un petit peu express d'un équipage d'astronautes en mission. Ils étaient en mission dans la Station Spatiale Internationale et ils étaient revenus de façon précipitée pour des raisons médicales. Eh bien, on apprend que l'un des astronautes de la mission Crew souffrait d'un problème de santé qui nécessite dans un premier temps l'annulation d'une sortie extravéhiculaire. Puis on apprend quelques jours plus tard que l'équipage au complet va être rapatrié rapidement sur Terre. Alors l'incident semble donc relativement sérieux, mais aucune information n'avait alors été donnée, ni sur le nom de l'astronaute concerné, ni sur la pathologie. C'était une discrétion qui était liée au secret médical, bien évidemment, et ça vise aussi à préserver la vie privée des astronautes, une vie qui est déjà très médiatisée. Eh bien aujourd'hui, enfin en tout cas plutôt cette semaine, mercredi, la NASA a finalement révélé dans un communiqué l'identité du malade. Il s'agit en fait de Mike Fink, l'astronaute américain âgé de 58 ans. Il était alors le commandant de la mission Crew. Le communiqué, c'est lui-même qui l'a rédigé. Il précise au passage qu'il va très bien, dit-il. On apprend ainsi que c'est le 7 janvier, lors d'un examen médical à bord de la Station Spatiale Internationale, que quelque chose d'anormal a été révélé. Et puis, ça a été également relevé par les autres membres de l'équipage, des données suffisamment préoccupantes pour que des chirurgiens soient immédiatement contactés sur Terre. Peu de temps après, la NASA annonce à l'équipage qu'ils vont devoir revenir plus tôt que prévu. L'état de santé de Mike Fink nécessitant la réalisation d'une imagerie médicale avancée non disponible à bord de la station. Donc, le 15 janvier, l'équipage au complet était rapatrié sur Terre. Alors, on ne sait pas exactement de quoi souffrait Mike Fink. Il précise qu'il ne s'agissait cependant pas d'une évacuation d'urgence et que les choses se sont faites de manière soigneusement coordonnée, dit-il. L'astronaute qui n'en est pas son premier vol, hein, il a quand même 58 ans, donc il avait un peu quelques heures de vol, on peut vraiment clairement le dire. Il en profite d'ailleurs pour remercier ses coéquipiers et les équipes au sol pour la gestion de cet événement inédit dans l'histoire de la NASA. Donc on sait qui c'est, mais on ne sait pas encore précisément ce qu'il s'est passé en janvier. Il y a vraiment une totale discrétion. Bon, on est sur un secret médical, donc quelque part, ce n'est pas non plus aberrant. Mais voilà, il va bien, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il annonce, et c'est peut-être le plus important. Toujours dans le ciel, hein, finalement, on reste dans l'espace, mais une autre information qui est assez intéressante, c'est un alignement de planètes qui, cet alignement va être visible dans le ciel nocturne autour du 28 février, donc aujourd'hui. Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. C'est un phénomène assez rare parce que les planètes, elles sont parfois 4 ou 5 à se retrouver visibles en même temps. Mais là, on va en voir 6. C'est assez mémorable, surtout dans ces conditions. La dernière fois qu'un événement encore plus rare s'était produit, c'était l'année dernière avec 7 planètes. Mais c'est quand même assez rare. Le prochain cas où cette planète sera en ligne droite, c'est pas avant 2040, donc effectivement, profitons-en éventuellement cette nuit, hein, si le ciel est dégagé. Pour qu'il y ait un alignement de planètes, il faut que les orbites des différentes planètes coïncident, bien sûr, dans le même plan, bien évidemment. Donc ça dépend de la trajectoire, ça dépend de la vitesse de chaque planète dans le ciel, et donc essayer d'obtenir un rassemblement d'un alignement de plus de 5 planètes, c'est plutôt inhabituel. En plus de cela, pour pouvoir être observé correctement, il faut que justement cet alignement ait lieu à des heures où le soleil est couché, donc c'est encore plus rare. Et justement, comment faire pour les observer de façon convenable? Eh bien, faut savoir que la plupart seront visibles à l'œil nu, donc c'est quand même assez intéressant. Pour Uranus et Neptune, c'est un petit peu plus éloigné, il faudra se munir d'un télescope pour en profiter au maximum. Alors le meilleur moment, c'est juste après le coucher du soleil, entre 30 minutes et 1 heure. Et l'idéal, c'est de se servir d'une application de localisation des planètes pour pouvoir les trouver facilement, parce que vous êtes comme moi. Alors moi, je ne m'y repère absolument pas dans le ciel, donc vous avez des applications qui vont pouvoir vous aider. Mais si vous préférez faire sans, eh bien, sachez qu'il faudra chercher quelques constellations dans lesquelles vous pourrez voir ces planètes, notamment donc la constellation des Poissons, poissons, on pourra admirer Vénus et Saturne. La constellation du taureau, où il y aura Uranus. Et la constellation des gémeaux, où il y aura Jupiter. Il faut chercher un endroit où il n'y a pas de pollution lumineuse, bien évidemment. Donc, en pleine campagne, ça serait très bien. Avec un horizon dégagé. Alors, je ne sais pas du tout quelle est la météo qui est prévue cette nuit. Certaines planètes seront assez basses dans le ciel, notamment Mercure, ce qui va être difficile à observer selon l'endroit où on se trouve. Pour Vénus et Jupiter, normalement, il n'y a aucune difficulté à les trouver. Elles seront bien situées, elles seront suffisamment brillantes. Ce sont elles qui pourront d'ailleurs vous servir un petit peu comme point de repère pour trouver les autres. Saturne sera aussi facile à repérer, notamment légèrement au-dessus de Vénus, mais elle brillera beaucoup moins et son observation dépendra bien sûr des conditions météo. Les deux autres planètes sont beaucoup plus loin dans le système solaire et donc elles seront assez peu brillantes, ce qui nécessite quand même un équipement spécial, d'autant plus que la Lune elle sera encore assez présente et lumineuse, ce qui rend ainsi les planètes les plus discrètes encore plus difficiles à pouvoir être repérées. Donc voilà, si vous ne savez pas trop quoi faire cette nuit ou la nuit prochaine, eh bien vous avez ce phénomène de ces six planètes qui seront visibles en même temps. Profitez-en et puis je pense qu'on pourra peut-être voir quelques clichés de certains qui pourront les diffuser sur les réseaux sociaux. Ça sera assez intéressant, bien évidemment.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
On va revenir sur Terre et on va revenir avec cette actualité liée à ces fameux déclassifications du dossier Epstein. Alors, il n'y a pas que Donald Trump, Bill Clinton, il y a quoi, il y a eu Mick Jagger, il y a Michael Jackson, il y a l'ancien Prince Andrew dans le dossier Epstein, mais il y a aussi d'autres personnes. En révélant au grand jour des millions de documents, le département américain de la justice a également donc mis au jour les rapports un peu ambigus que ce richissime criminel sexuel entretenait avec de nombreux scientifiques de premier plan. C'est notamment le cas du physicien Stephen Hawking ou du linguiste Noam Chomsky. Alors on peut quand même difficilement les soupçonner d'être attirés par les jeunes filles, mais en tout cas on se pose un petit peu de questions et puis surtout qu'il n'y a pas que ces deux noms qui apparaissent dans ces dossiers. En fait, la chose assez peu connue, c'est que Jeffrey Epstein a commencé sa carrière en tant que professeur de mathématiques et de physique. Et au milieu des années 70, il enseigne à la Dalton School de Manhattan, un lycée privé un peu bien coté quand même. Bon, il va se faire congédier au bout de 2 ans. Et puis, alors, la suite, elle est un peu plus connue, hein, parce qu'à partir des années 80, il va fonder successivement des sociétés qui vont lui permettre d'accumuler une fortune de 600 millions de dollars. Il achète le plus grand hôtel particulier de New York. Il achète un appartement avenue Foch à Paris. Il achète une vaste propriété à Palm Beach, une gigantesque maison aux îles Vierges. Bref, il profite de tout cela. Ce succès tient en grande partie au fait qu'il a réussi au fil des ans à se constituer un impressionnant réseau de personnalités médiatiques et influentes, sans doute le plus important aux États-Unis dans le monde. Et ça englobe des stars de la musique, des journalistes, des politiciens, des acteurs, des réalisateurs, des milliardaires, mais aussi de nombreux chercheurs scientifiques. Ça, voilà, c'est un petit peu inédit, on va dire, en tout cas assez étonnant. Pourtant, il n'y a sans doute rien de spécialement étrange à cela, parce que depuis des siècles, il y a de riches mécènes qui financent ces scientifiques. Et depuis des siècles, les scientifiques ont besoin de ces riches mécènes pour mener à bien leurs recherches. Et donc, avant sa condamnation en 2008 pour incitation de mineurs à la prostitution, eh bien, Jeffrey Epstein avait un goût prononcé et a priori sincère pour la recherche. Il avait fait don de plus de 30 millions de dollars à l'université de Harvard. Il a fait don de 800 000 dollars au MIT, qui est l'Institut de technologie du Massachusetts, j'y ai arrivé, pardon. Le MIT est l'un des plus grands centres de recherche internationale. Et en outre, il avait une fondation et à travers cette fondation, eh bien, il a pu financer des recherches en génétique. Il a donné des fonds à la Ligue américaine contre le cancer. Il a soutenu les travaux de Marvin Minsky en intelligence artificielle. Donc c'était un grand mécène, d'où l'idée justement d'avoir tous ces noms de scientifiques dans son carnet d'adresses. En toute logique, l'argent explique donc en grande partie l'intérêt que les scientifiques lui portaient, que ce soit, pour ne citer les plus connus, le psychologue Stephen Pinker, le mathématicien Martin Novak, la physicienne Lisa Randall, et donc, comme on l'a dit, l'astrophysicien Stephen Hawking, sont tous mentionnés à de nombreuses reprises. Plus problématique, il y a certains courriels qui révèlent que l'astronome Lawrence Krauss et le linguiste Noam Chomsky avaient continué à fréquenter Epstein longtemps après que ces crimes aient été rendus publics. Donc là, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Quoi qu'il en soit, ce dossier tentaculaire n'a pas encore révélé tous ses secrets. Une grande quantité de documents vont être bientôt divulgués. Ça va encore pas mal discuter. En tout cas, rappelons que le fait d'être cité, ça ne veut pas dire qu'on est coupable, hein, bien évidemment, mais en tout cas, ça posait question d'avoir autant de scientifiques dans ces fameux dossiers. Et donc là, on est sur la partie financement mécénat, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une grande partie de la recherche internationale qui est financée par des dons privés. Et donc là, dans le cas d'Epstein, eh bien, ça semble être le cas, avec des sommes assez conséquentes. Et donc, voilà, on avait un peu oublié qu'il avait été, au départ, professeur de mathématiques et de physique à la fin des années 70. On avait, voilà, on n'associe pas nécessairement ça, en tout cas, on n'en parle pas essentiellement de façon assez régulière, bien évidemment. Alors, on va, quelle heure est-il ? 12h37 sur l'antenne de Graphite. Eh bien, on va peut-être parler de ces vols de données qui concernent encore la France. Une nouvelle fuite de données qui concernerait apparemment entre 11 et 15 millions de personnes. Cette fois, la source, elle est médicale. C'est ça qui est un peu inquiétant. Les données proviennent du logiciel monlogicielmedical.com. En fait, il est utilisé par plus de 3800 médecins en France. L'affaire a été dévoilée par France 2, qui a repéré la base de données en libre accès dans le dark web, le côté sombre d'Internet. On y trouve les informations personnelles habituelles, le nom, la date de naissance, numéro de téléphone, adresse postale, adresse mail, ça, effectivement, à mon avis, tout le monde est au courant de tout ça. Ce qui est un petit peu plus grave, c'est les informations concernant les dossiers médicaux. C'est la présence, notamment dans ces données, d'un champ qui est réservé aux commentaires des médecins. Et ces commentaires comportent parfois des informations très personnelles, comme l'indication d'une maladie grave, des addictions, la sexualité, la religion. Parmi les patients concernés se trouveraient des personnalités politiques de premier plan, candidats à la présidentielle, des hauts responsables. Donc France 2 a contacté le hacker qui affirme être à l'origine de la fuite. Et il indique avoir signalé les faits à Cegedim qui n'a pas donné suite, et donc dans un communiqué publié à la suite du reportage, la firme nie avoir été contactée, elle confirme le vol de données, mais elle précise que les informations sensibles contenues dans les commentaires administratifs ne concernent qu'un nombre très limité de patients. Combien, on n'en sait rien, mais en tout cas, voilà, tout le monde n'est pas concerné, nous dit-on. Cegedim affirme avoir identifié un accès anormal à la fin de l'année dernière sur les comptes médecins utilisateurs du logiciel et que, je cite, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour le traitement de cet incident qui a été circonscrit. En tout cas, la société, elle indique en avoir informé la CNIL, avoir porté plainte, avoir contacté tous les médecins concernés début janvier. Donc la base de données en accès libre aurait été retirée, mais elle serait toujours proposée à la vente sur le dark web. France 2 indique que cette base de données contiendrait donc entre 11 et 15 millions de personnes. Donc c'est quand même assez conséquent. Les journalistes ont contacté certains des patients pour vérifier les informations. Et donc le hacker, lui, affirme qu'il s'agit au total de 19 millions de personnes, mais qu'il n'y aurait que 150 000 adresses e-mail uniques. Alors, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, ce chiffre, il n'est pas étonnant parce que les médecins ne collectent pas systématiquement les courriels des patients. Donc, si on se réfère uniquement aux courriels, on n'a pas tous les courriels. Par contre, on a quand même toutes les personnes. Le ministère de la Santé avance donc le chiffre de 15 millions et indique que seuls 169 000 des enregistrements contenaient un commentaire saisi par les médecins. Donc, 1% de ces 15 millions. OK, mais enfin, ça fait quand même pas mal de monde derrière. Le ministère dévoile par ailleurs que Cegedim a porté plainte fin octobre dernier après que des salariés ont signalé avoir reçu des courriels d'extorsion revendiquant le piratage de plusieurs milliers de données personnelles. Et donc, le parquet de Paris a saisi la brigade de lutte contre la cybercriminalité. Alors, ce n'est pas la première fois que Cegedim est mise en cause dans une fuite de données. En septembre 2024, la firme a été condamnée à payer une amende de 800 000 euros pour avoir traité des données et les avoir transmises à des tiers pour des études statistiques. Alors le problème n'était pas tant la transmission en elle-même, mais le fait que les données n'étaient pas anonymisées, mais il y avait des espèces de pseudos qui avaient été utilisés. Il était donc possible de retrouver l'identité des patients. Enfin, c'est quand même totalement inadmissible, bien sûr. Les données sont considérées comme des données personnelles et soumises, bien sûr, au règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD. Mais en tout cas, ce vol de données est assez inquiétant parce que là, on est sur... alors, je pense que les adresses postales, éventuellement les adresses mail, ça, à mon avis, je pense que ça a été volé plusieurs fois. Mais là, maintenant, si on a des commentaires des médecins sur des problèmes médicaux et que ces informations-là sont aussi volées, là, ça devient bien évidemment problématique. Bon, on n'en sait pas plus. Hein, c'est quelque chose qui a été annoncé cette semaine. Mais voilà, ça reste assez inquiétant, bien évidemment. Allez, on écoute un autre titre sur l'antenne de Graphite et puis on va continuer à feuilleter ensemble la revue de presse de l'actualité scientifique. À tout de suite.
We'll be right back.
Oh là, ça s'est arrêté d'un seul coup. J'étais en train de consulter les différents articles et le titre Ants and Dragons de Dead Cross s'est arrêté d'un seul coup, comme ça, sans prévenir petit sacripant.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
C'est l'ouverture, il y a quelques jours, de la procédure judiciaire contre Total Energy qui a été engagée par la ville de Paris et par des associations hein, comme notamment France Nature Environnement, l'association Sherpa, l'association Notre Affaire à Tous, l'association ZEA. Alors de quoi est accusé le fournisseur d'énergie Total Energy ? Eh bien de polluer notre environnement, de faire peser des risques sur notre santé et d'aggraver les vulnérabilités. Un procès inédit qui a débuté le 19 février dernier et l'association Sherpa estime, je cite, qu'il s'agit du premier contentieux climatique en France visant à contraindre une multinationale pétrolière à cesser sa contribution à l'aggravation du changement climatique. Étant donné que Total Energy fait partie des 20 plus grands émetteurs historiques de gaz à effet de serre, en janvier 2020, une coalition d'associations et de collectivités a assigné Total Energy en justice. L'objectif est de contraindre la compagnie pétrolière à prendre les mesures nécessaires pour s'aligner avec l'objectif de plus 1,5 degré Celsius. C'est l'accord de Paris, conformément à la loi sur le devoir de vigilance. Donc, cette procédure, elle invoque donc cette loi qui a été adoptée en 2017, qui impose aux grandes entreprises françaises d'identifier les risques et de prévenir les atteintes aux droits humains et à l'environnement résultant de leurs activités et de celles de leurs filiales. Et donc, le 20 février dernier, des membres du GIEC ont été entendus à l'occasion de ce procès, notamment la climatologue française de référence qui est Valérie Masson-Delmotte, elle en faisait partie, et elle a publié l'intégralité de son témoignage au tribunal de Paris, basé sur les conclusions du sixième cycle d'évaluation du GIEC. Elle a publié ça sur LinkedIn et Futura Science nous fait justement un petit peu le résumé de ce qui a été évoqué. Les rapports du GIEC sont rédigés par 1000 scientifiques et, elle précise, ce sont les rapports scientifiques les plus relus au monde. Le sixième rapport du GIEC montre très clairement que le changement climatique est une menace pour la santé, le bien-être humain, l'habitabilité de certains territoires et la dégradation d'écosystèmes, que ce soit des écosystèmes marins et terrestres dont nous dépendons. Elle évoque aussi un fait établi, dit-elle, ce sont les activités humaines, principalement par les rejets de gaz à effet de serre, qui sont responsables, sans équivoque, du réchauffement planétaire et du réchauffement de l'atmosphère, de l'océan et des surfaces continentales. Et donc, parmi les gaz à effet de serre, ce sont les émissions de CO2, hein, dioxyde de carbone, qui pèsent le plus sur le réchauffement actuel. Ces émissions sont dues à 90% aux énergies fossiles, suivies de celles du méthane. Elles sont dues... Les émissions de CO2 sont dues à 90% aux énergies fossiles. Les émissions de méthane sont dues à 50% aux énergies fossiles et les autres gaz à effet de serre ont un poids plus faible, dit-elle. Et elle explique que ces émissions de gaz à effet de serre ont un effet direct sur nos vies. Chaque région du monde est affectée par le changement climatique via un ensemble de facteurs climatiques générateurs d'impact, notamment les événements extrêmes. Le réchauffement dû aux émissions de gaz à effet de serre augmente notamment la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur dangereuses, des pluies extrêmes, des sécheresses des sols, des conditions propices aux incendies et des inondations composites. C'est ce qu'elle explique donc. Chaque dixième de degré, chaque demi-degré de réchauffement supplémentaire exacerbe de manière disproportionnée les événements les plus intenses. Elle estime que ces catastrophes affectent de manière disproportionnée environ 3,5 milliards de personnes. Alors, les impacts du réchauffement climatique affectent négativement l'accès à l'eau, entraînent des pertes de récoltes, une diminution de la productivité de l'élevage, de l'aquaculture et de la pêche, une perte de productivité au travail, des pertes de revenus, des pertes économiques. Et ces impacts affectent la santé physique et mentale, le bien-être, notamment par la morbidité, la mortalité qui sont liées aux chaleurs, aux incendies, à la malnutrition, aux maladies infectieuses et aux déplacements contraints. Et donc, elle insiste sur le fait qu'une véritable escalade des risques va se produire entre 2030 et 2050. Il y aura donc des régions du monde qui vont être touchées en particulier, l'Arctique, l'Asie du Sud-Est, le pourtour méditerranéen, le Sahel, l'Afrique de l'Ouest, le sud de l'Afrique, les régions tropicales, les petites îles. Ça fait quand même du monde, hein, finalement. Et à ceux qui pensent que l'humanité et la biodiversité pourront s'adapter, elle répond « Plus les niveaux de réchauffement futur sera élevé, plus certaines options d'adaptation, notamment liées aux écosystèmes et à la gestion de l'eau, seront de plus en plus contraintes et perdront en efficacité. » Au moins, c'est clair. Et elle conclut donc, à l'occasion de ce procès, que le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé planétaire. Et sans une forte baisse des émissions mondiales de CO2, les enfants d'aujourd'hui seront exposés tout au long de leur vie à un cumul d'événements extrêmes qui sera disproportionné par rapport à l'exposition des générations antérieures. C'est un procès inédit, c'est donc un témoignage inédit et qui pose bien sûr assez questions parce que ces grands émetteurs de CO2, quand je dis ces grands émetteurs, ces grandes firmes qui vont peut-être être de plus en plus concernées par les procédures judiciaires, eh bien ce témoignage de Valérie Masson-Delmotte, l'une des plus grandes climatologues françaises, va pas nécessairement aller dans leur sens, bien évidemment. Le jugement a été mis en délibéré, et renvoyé au 25 juin prochain. Le résultat de ce jugement risque bien sûr de vraiment poser question par la suite parce que, voilà, si on est maintenant sur des procédures judiciaires, ce que dit Valérie Masson-Delmotte, c'est pas une surprise. On le sait très bien dans cette émission, je crois qu'on en parle presque toutes les semaines, de ces conséquences du réchauffement climatique, des causes et des conséquences. On a des sujets qui sont fréquemment évoqués sur plein de domaines scientifiques, techniques, médicaux. Donc ce qu'elle dit, c'est pas nécessairement une surprise, c'est pas une nouveauté, c'est pas une révélation, mais le fait que maintenant on est dans un stade de procédure judiciaire qui touche donc là en l'occurrence Total Energy, mais il faut pas se leurrer, il y en a d'autres qui vont être également impliqués, faut s'en douter, ça va bien sûr peut-être enfin déclencher une prise de conscience efficace avec peut-être des actions concrètes qui pourraient être mises en pratique. À voir, bien évidemment, mais là, on a vraiment l'impression qu'on passe un stade supplémentaire parce que les communications du GIEC sont évidemment accessibles, sont connues. Est-ce qu'elles sont prises en considération ? C'est un petit peu toute la question, bien évidemment. Voilà, on va terminer. Alors, comme il est 12h53, je vais essayer de trouver un dernier article. C'est celui que je trouvais aussi intéressant. On va parler du Covid. Et c'était intéressant. Je vous ai toujours dit, au moment du Covid, hein, les années 2020-2021, je vous avais dit, il faut bien sûr du temps pour la science, pour avoir une analyse un petit peu de ce qui s'est passé. Et là, cet article dans Science et Avenir du mois de février est assez intéressant concernant les vaccins anti-Covid qui sont bénéfiques à long terme. C'est le titre de cet article. Contrairement aux craintes répandues par ceux qui étaient sceptiques par rapport aux anti-vaccins, en clair, eh bien les vaccins ARN messagers massivement utilisés contre le Covid-19 à partir de 2021 n'ont causé aucune hausse de la mortalité sur le long terme. Bien au contraire, c'est ce que montre une étude conduite sur l'ensemble de la population française par une équipe d'un groupe de recherche en épidémiologie de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et également une équipe liée à l'assurance maladie. On connaissait bien le profil à court terme des vaccins Covid en matière de bénéfices et de risques. En revanche, leurs bénéfices à long terme n'avaient jamais été étudiés. C'est ce qu'explique le professeur Mahmoud Zurek, qui est le directeur justement de ce groupe de recherche. Il a supervisé l'étude. Les chercheurs ont examiné les données de près de 30 millions de Français entre 2021 et 2025. Donc là, on n'est pas sur un petit échantillon, on est sur une population quasi entière, l'ensemble de la tranche d'âge entre 18 et 59 ans. Près de 23 millions d'entre eux ont reçu un vaccin à partir de le milieu de l'année 2021, qui était la date de lancement d'une campagne massive de vaccination contre la maladie à l'origine d'une pandémie majeure au début de l'année 2020. Les 6 millions restants n'ont pas été vaccinés malgré les mesures contraignantes. Quand même 6 millions de personnes qui n'ont pas été vaccinées je ne pensais pas qu'ils étaient aussi nombreux. Toute cause de décès confondue, cancer, maladie cardiovasculaire, accident, suicide, il s'avère que 0,4 des personnes vaccinées sont mortes dans les 4 années ayant suivi l'administration du premier vaccin, contre 0,6 des personnes qui n'avaient pas été vaccinées. L'analyse statistique, elle montre que les vaccinés ont bénéficié d'une baisse de 74% du risque de mourir d'un Covid sévère et de 25% en incluant toutes les autres causes. Autrement dit, les individus vaccinés étaient moins à risque de décès que les individus non vaccinés, quelle que soit la cause de décès considérée. C'est ce qu'écrivent les auteurs dans cette publication. On peut dire avec un grand degré de confiance qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de mortalité après un vaccin Covid. C'est ce que conclut donc le professeur Zurek, et ce même en comptant les effets indésirables recensés de la vaccination. C'est clair, c'est net. Enfin, on a une étude qui prouve que il fallait se faire vacciner et que les vaccins anti-Covid sont bénéfiques à long terme. On est sur un panel de 30 millions de personnes. Je pense que là, on peut difficilement contredire ce genre de recherche menée avec le plus grand sérieux, bien évidemment. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il fallait bien sûr avoir du temps pour mener toute cette analyse et de pouvoir rédiger les conclusions de tout ça, et on ne pouvait pas faire ça sur l'instant. Donc il fallait du temps pour pouvoir avoir toute une recherche sur ce sujet-là. Et donc en février 2026, eh bien voilà, cet article de Science et Avenir qui reprend donc ces résultats de ce groupe de recherche français sur les vaccins anti-Covid. Ça fait quand même plaisir à terminer cette émission par ce genre d'article qui montre quand même que la science, quoi qu'on en dise, elle apporte quand même des choses à l'humanité, finalement. Et c'était quand même un peu compliqué, cette période de Covid, face à certaines personnes qui n'étaient pas nécessairement confiantes par rapport à ces sujets-là. Il est 12h58, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission Biotine sur l'antenne de Graphite. C'était une émission bien dense avec beaucoup d'actualités. Je commence à bafouiller, ça veut dire que j'ai trop parlé. Je vous laisse en compagnie de la suite des programmes sur l'antenne de Graphite. On se retrouve alors mardi prochain, c'est à 10h la rediffusion, mais samedi prochain à 12h sur l'antenne de Graphite, on continuera ensemble à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. C'était un plaisir pour moi de vous avoir animé cette animation. Je vous souhaite de vous avoir animé cette émission. Vraiment, j'allais me coucher, je ne vais même pas aller déjeuner, je crois que j'allais me coucher, il n'y a que ça à faire. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, au revoir.